On va commencer cette réunion et au nom de mes camarades et de tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce meeting, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Arthaud, notre candidate aux élections présidentielles. Donc, une candidate communiste pour défendre notre camp, le camp des travailleurs. Et je vais profiter, avant de donner la parole à Nathalie, pour présenter la tribune à les camarades qui sont là avec moi. Donc, Vincent Combes, qui est ouvrier chez Liebherr. Clotilde Barthélémy, contrôleuse aérienne. Olivier Le Penven, ouvrier sur chaîne chez Airbus. Et moi-même, Malena Drada, professeure des écoles. Donc, nous serons tous les quatre aussi candidats aux élections législatives du mois de juin pour lutte ouvrière, pour défendre le camp des travailleurs. Et je laisse la parole maintenant à notre camarade Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. À ce jour, le Conseil constitutionnel a enregistré 623 parrainages pour ma candidature. Je serai donc candidate. Mais attention, ne vous emballez quand même pas trop, hein, parce que je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Vous le savez, mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité de temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser cette double campagne, hein, vous savez, avec le IN, dans lequel il y a les grands candidats, 5, et le OFF, qui regroupe les petits candidats, dont parfois on ne sait même pas qu'ils sont candidats, et qui n'auront droit qu'à quelques interviews distillées ici et là. Par exemple, le prochain grand débat de la présidentielle est organisé lundi soir. Pardon, je parle trop vite peut-être, est organisé lundi soir sur TF1 et ne seront invités que 5 candidats. Alors voilà, c'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et sur le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, l'équité. Autrement dit, la médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote. Alors oui, le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou qui font grève ne sont pas mieux traités par les médias. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent ainsi leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est véritablement dans le système et qui ne l'est pas. Alors, nous le prenons un peu comme une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie du paysage, nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi n'avons jamais rêvé à l'Élysée ou à Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs... que les travailleurs et que les exploités peuvent le renverser et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans ces élections, nous pouvons avancer dans ce combat. C'est pourquoi j'appelle, dans cette campagne électorale, les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs, à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et bien sûr des démêlés judiciaires. Pour la première fois, on aura donc un candidat à la présidentielle mis en examen. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité tous ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle remet en cause l'alternance gauche-droite, et elle engendre la décomposition politique des deux grands partis qui tenaient jusque-là le premier rôle. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa future majorité parlementaire. Dans les mois qui viennent, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine, c'est que dans toutes ces péripéties, les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Parce que quels que soient tous ces micmacs politiciens, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds, parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Prenez Fillon. Fillon est le porte-parole par excellence du grand patronat. Et il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Son arrogance, ses leçons de morale du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », eh bien c'est exactement l'arrogance et le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant à son programme, bah c'est bien simple. Il a repris l'intégralité de la politique du MEDEF, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA et la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Autrement dit, il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes et c'est le culte de l'individualisme, du chacun pour soi. Macron ne jure que par les auto-entrepreneurs qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron ? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy puis par Hollande pendant 10 ans, avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'impôt sur la fortune, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre, la suppression de postes de fonctionnaires. Pour lui, c'est 120 000 en moins. C'est l'augmentation de la CSG, c'est 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à la troisième, du trio de tête, Le Pen, eh bien c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi, elle prévoit des suppressions de postes dans la fonction publique. Et elle prévoit aussi des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et une prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais où veut-elle prendre l'argent ? Eh bien, sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient les guerres ou une dictature féroce. Elle veut s'en prendre à des travailleurs qui sont ici parfois depuis 5 ou 10 ans, en taxant leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Autrement dit, elle veut s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance, et elle brandit exactement la même politique que celle du grand patronat, c'est-à-dire diviser pour régner. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, aux parents qui est tenté par le vote pour le Front National, nous pouvons dire laisse ce vote aux racistes, laisse ce vote aux grenouilles de bénitier, aux nostalgiques de la France à papa, laisse ce vote à tous ceux qui accusent les chômeurs d'être des assistés ou qui pensent que les ouvriers ne travaillent pas assez. Mais toi, vote pour tes intérêts, vote pour ton camp, le camp des travailleurs. À gauche, Hamon veut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Ce revenu universel a déjà fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, cela a été de l'encre gaspillée, parce que Hamon a déjà enterré cette mesure. Habituellement, les socialistes renient leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Eh bien là, la promesse n'a même pas tenu le temps de la campagne. Alors c'est dire que Hamon est le digne héritier de Mitterrand, de Jospin et de Hollande. Aujourd'hui, les Macron, Fillon, Le Pen, Hamon s'opposent. Mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors leur politique consiste à amadouer ces capitalistes, à les bichonner, et il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien, je suis candidate pour dire exactement l'inverse, pour dire que les forces vives du pays, c'est nous, les travailleurs. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Bernard Arnault, les Muliez, les Bettencourt, sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train, sans les pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner, leurs ateliers, leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Ensemble, nous faisons tourner toute la société, nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité et y compris ces produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste, minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés de ces PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louchent du côté du Front National, eh bien il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts, leurs politiques, leurs programmes. Et le premier point de ce programme, eh bien c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commandes assurées. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois. Même quand on a perdu son boulot, il faut remplir l'estomac des enfants. Alors oui, il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les suppressions d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. Et rien qu'en 2016, ils ont annoncé avoir explosé les plafonds avec 2,15 milliards. Eh bien, en 3 ans, PSA a supprimé 17 000 emplois. Sanofi réalise 5 à 6 milliards de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui. Et c'est la même chose dans le secteur bancaire, dans les assurances, dans les médias. Les grands groupes capitalistes sont aussi de grands fabricants de chômeurs. Alors la première des choses, c'est de les empêcher de nuire. Et je n'oublie pas les salariés des petites entreprises. Je sais qu'ils sont aussi concernés par les licenciements, mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces groupes capitalistes et que les banques soient mises à contribution et qu'elles payent pour préserver tous les emplois, y compris les emplois dans ces petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible en imposant que le travail soit réparti entre tous, et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans tous les grands groupes avec ces accords de compétitivité qui consistent à imposer des heures supplémentaires obligatoires et des samedis travaillés. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'électriciens, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire et donc il y a autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus parce que le chômage, c'est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Parce que le chômage aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme et il pousse à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre, le rejet de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité, il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, si on veut une augmentation, il faut qu'on se la paye. Pourquoi nous dit-elle cela ? parce qu'elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas, elles. Eh bien, Le Pen, comme la plupart des grands candidats, s'en moque de ces difficultés. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour une augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement. Parfois davantage, 50 ou 100 euros pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Et puis, il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et puis après tout ça, eh bien, il y a encore les impôts. Il faut payer l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Et à la fin, eh bien, il reste quelques dizaines d'euros par jour, enfin, quelques euros par jour plus exactement, pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, c'est encore plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien ils doivent être eux aussi transformés en salaire, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, mais tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans notre société. Et ces 1 800 euros par mois ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC net, qui est aujourd'hui à 1 150 euros, était de 1 000 euros. Et déjà à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. Autrement dit, en 10 ans, le SMIC a augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG ? De 65% en 10 ans. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale des salaires de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, de celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que tous les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors oui, ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, accumulés au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple de Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Le gérant d'un magasin y est payé 1 400 euros net et tous les autres employés sont autour du SMIC. Alors non, ce qui a tué Vivart, eh bien ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui ont forcé les différentes enseignes à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît ? Eh bien auprès de ces mêmes fonds capitalistes à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Eh bien si les salariés du groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et pour mieux se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle le prépare, parce qu'elle le tape, parce qu'elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et ils le craignent. Et c'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il nous faut revendiquer de supprimer ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et ils pourraient même prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et puis, avec cette mesure, eh bien, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et puis, on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas un programme numéroté, un catalogue de promesses qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins et ce sont des objectifs de lutte. Oui, c'est un programme de lutte. Et c'est aussi le plus radical parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis et où sont nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées, c'est-à-dire dans le combat politique. Et le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec toute cette palette de partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais bien sûr, il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils se disent de gauche, de droite ou ni de gauche ni de droite. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Il faut un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Encore une fois, voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. À gauche, de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de ses droits, de son rôle indispensable. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs ? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros, les vraies 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi ? Parce que Mélenchon se veut responsable. Parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande l'avait fait superbement en son temps. Souvenez-vous, le discours du Bourget. Mais le problème, c'est qu'il faut dire si l'on est prêt ou pas à renverser cette finance. C'est-à-dire si l'on est prêt à l'exproprier. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant les traités ou en sortant l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains. Mélenchon nous explique ainsi le pouvoir reviendrait au peuple. Eh bien, ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc. Bettencourt, la reine des cosmétiques. C'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. Quand on appartient au monde ouvrier, on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, qui a le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, pour le choix de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études ? En fonction de ses envies, de ses passions ? Non, en fonction des besoins du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, eh bien, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie française. Autrement dit, c'est brouiller les consciences, c'est une façon de détourner les travailleurs de leur véritable combat, leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté et d'indépendance de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système. Et parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront conforté le camp des travailleurs en les armant politiquement. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien, notre campagne, ma candidature nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société, une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, plus important sans doute, il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela ? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant, en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit de cette délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut des frontières toujours plus étanches, toujours plus élevées. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. Et l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes, et ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas obtenir la retraite à 60 ans. Alors, notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Et je le dis bien, ce n'est pas qu'une question de solidarité. Il en va de notre intérêt à tous. Parce qu'en tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors oui, notre intérêt n'est sûrement pas de se battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien, ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et de l'exploitation, mais débarrassée aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Les travailleurs sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Parce qu'il en va de la préservation de notre environnement comme du reste. Les politiciens font des promesses et, une fois au pouvoir, eh bien, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, eh bien on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie et de gérer collectivement les immenses moyens de production dont nous disposons et de les planifier en fonction des besoins de tous. Et cela dépend de la capacité des travailleurs à prendre la tête de la société. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, c'est-à-dire la perspective d'une autre société, la perspective d'une société communiste, la seule société vraiment humaine. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers ? Bien sûr que non. De femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles ou qui galèrent au chômage ou avec des petits boulots. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui était mobilisée dans la rue et en grève. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, dans les usines. Eh bien, il faut que cette classe ouvrière s'exprime sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais, encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura pour mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement et le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, on nous demande d'élire le prochain président de la République qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté au patronat pour qu'il nous exploite et qui baissera nos conditions de travail et de vie. Alors, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu ne doit pas être de les départager. L'enjeu, pour nous, doit être d'exprimer nos intérêts, nos perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire. Encore une fois, À quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger un peu est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec les luttes collectives puissantes et avec toute l'histoire du mouvement ouvrier. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre et c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, eh bien au contraire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors oui, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, et quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière. Les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom. Mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne, enfin je suis déjà maintenant, en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois qu'on me donnera la parole. Et une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, eh bien, elle permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Eh bien, ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais là, je ne parle que de ceux qui sont déjà à moitié convaincus. Bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont complètement perdus. Il y a tous ceux qui retombent dans les illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique, de voter. Et puis, voilà, il y a tous ceux qui sont complètement désorientés hein, et qui louchent du côté du Front National. Eh bien, ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot, et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que salarié, chômeur. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ses idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions de femmes et d'hommes sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Alors, vous l'aurez compris, pour que ce soit une bonne campagne, que ce soit une campagne réussie, eh bien, il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que ce soit notre campagne. Il faut que ce soit votre campagne. Et pour conclure, juste un effort de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection, en mai prochain, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, on ira au travail, hein, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles, mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploiter, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Et les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, eh bien, levons notre drapeau, celui des travailleurs et celui des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera le mieux au combat que forcément nous aurons à mener.